On termine ce dernier segment avec, en fait, on se penche encore une fois du côté de la santé, des services sociaux, mais pour se pencher sur l'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap et leurs proches dans le réseau de la santé et des services sociaux. On sait qu'avec toutes les réformes, la réorganisation apportée en santé, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et le mouvement PHASE, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, a des pistes de solutions. Je joins au téléphone Olivier Martin, coordonnateur du mouvement PHASE. Bonjour, M. Martin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Très bien, merci.
D'abord, j'aimerais qu'on rappelle ce qu'est le mouvement PHASE.
Oui, l'acronyme PHASE, c'est Personnes handicapées pour l'accès aux services. Et notre mouvement est une action collective de promotion et de défense des droits pour l'accès aux services publics de santé et de services sociaux qui vise à mobiliser, rassembler, dynamiser autant les personnes en situation de handicap physique, intellectuel, les troubles envahissants du développement, les troubles du spectre de l'autisme, les parents, les proches, les personnes de tout groupe d'âge pour faire des actions collectives de solidarité pour promouvoir et défendre notre droit d'accès aux services.
Vous représentez beaucoup de membres parce que vous ne restreignez pas seulement aux personnes en situation de handicap, mais vraiment leur entourage, les proches aidants aussi. Mm-hmm. Quel était votre objectif en publiant un avis sur l'accès à l'information?
Bien, il faut dire que dès les débuts du mouvement PHASE, on remonte il y a environ une dizaine d'années. Un des aspects du problème d'accès aux services de santé et de services sociaux qui était souvent exprimé par les personnes en situation de handicap et leurs proches était la difficulté d'obtenir de l'information, les nombreuses démarches qu'ils devaient aller faire auprès de différents intervenants pour savoir quels services étaient disponibles, à quels services ils pouvaient avoir droit. Et donc, dans ces nombreuses démarches-là, il y avait souvent des informations qui étaient différentes ou contradictoires selon qu'on allait s'informer auprès d'une intervenante dans un CLSC, d'un hôpital. Et ça occasionnait beaucoup de démarches et ça se superposait aux délais d'attente qui sont déjà assez longs pour attendre les services. Comme par exemple, si la personne a besoin d'un service d'orthophonie, par exemple, bien, c'est de savoir quelles sont les modalités pour y avoir accès, où aller le demander, à quelle porte aller cogner. Juste toute cette démarche-là pour obtenir l'information sur où avoir le service, comment faire pour l'obtenir, ça se superposait aux longs mois d'attente pour avoir accès au service.
Tout à fait, parce que surtout si on ne va pas cogner à la bonne porte dès le départ, c'est des délais à cette, si on veut, c'est cette mauvaise démarche, il y a des délais et on les ajoute aux délais dans la bonne démarche.
C'est ça, il y a déjà des délais qui s'ajoutent, c'est comme, il y a déjà du temps qui est perdu avant de pouvoir commencer à attendre en étant inscrit sur une liste d'attente. Donc, c'est vraiment de s'attarder à cette période-là de recherche d'informations qui demande des démarches, de l'énergie, qui peut être des fois assez fastidieuse parce que justement, selon à qui on va s'informer, l'information peut être différente. Fait que si on obtient la mauvaise information, puis on va cogner à la mauvaise porte, puis on se fait rediriger vers un autre endroit. On a comme l'impression de faire la balle de ping-pong dans
tout
le réseau de la santé. Alors donc c'est vraiment cette partie de l'accès aux services là qu'on voulait réduire avec notre avis.
Monsieur Martin, il existe la loi sur la santé et les services sociaux au Québec. Est-ce que le droit à la bonne information est garanti par cette loi?
Bien sûr, tout à fait. C'est l'article 4 de la loi sur la santé et des services sociaux qui dit que toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources qui sont disponibles dans son milieu en matière de santé et services sociaux et des modalités d'accès à ces services et à ses ressources. Ça, c'est vraiment là, textuellement, l'article de la loi sur la santé des services sociaux qui dit ça. Fait que donc, c'est un droit des usagers qui est inscrit dans la loi et c'est aux usagers à faire valoir ce droit-là et à le défendre. Et nous, on voulait aussi en faire la promotion. Parce que pour obtenir un service, pour avoir accès aux services qu'on a besoin en tant que personne en situation de handicap, de un, il faut savoir que le service existe, puis comment l'obtenir. Fait que donc, c'est vraiment les démarches, les conditions là, préalables avant d'avoir accès à un service.
Comment avez-vous procédé pour dresser le constat que vous faites dans votre avis?
Bien, là, on est parti de focus group. On a travaillé avec des parents et des personnes en situation de handicap. Donc, on a fait vraiment des focus group avec des gens qui ont fait l'expérience de recherche d'informations, qui ont une pratique là, concrète de recherche d'informations dans le réseau. Fait qu'on a fait 6 focus groups, autant avec des gens qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle, avec des parents, des gens qui ont une déficience sensorielle, déficience visuelle, déficience auditive, pour voir comment ces personnes-là faisaient leur démarche et aussi pour que ces personnes-là puissent proposer des pistes de solutions qui répondent réellement et concrètement à leurs besoins d'information. Pour obtenir l'information qu'on a de besoin, si on a une déficience visuelle ou qu'on a une déficience physique, une déficience intellectuelle, qu'est-ce qui répond à nos besoins, qui nous permet d'obtenir la bonne information sur nos services, qu'est-ce qui est aidant, facilitant dans les démarches. Fait que c'était vraiment d'aller chercher le point de vue privilégié des personnes qui font de la recherche d'information, puis de mettre en lumière les solutions qui répondent à leurs problèmes d'accès à l'information.
Mm-hmm. Avant d'aller vers les pistes de solutions que vous proposez, quels sont les principaux obstacles que vous avez identifiés et les impacts que ces obstacles-là ont sur la situation des gens?
Bien, de un, il y a un aspect, moi, qui m'a vraiment beaucoup frappé dans le travail qu'on a fait avec les focus groups, c'est qu'il y a comme une impression malsaine qui se dégageait des focus groups. Il y a des parents, des personnes en situation de handicap qui avaient l'impression qu'on leur cachait de l'information. Parce que des fois, des services peuvent prendre 36, 48 mois avant de les obtenir, mm-hmm. ou que le service est théoriquement disponible, mais étant donné qu'il s'adresse, par exemple, pour les 0-7 ans ou les 14-20 ans, et si la personne a 21 ans, elle ne peut pas y avoir accès. Fait que donc, il y avait comme l'impression qu'il y avait des services qu'on leur cachait ou qu'on n'en parlait pas parce que ce qu'on ne sait pas nous dérange pas. En taisant cette information-là, en omettant d'informer les personnes, parce que les délais d'accès sont trop longs, ça avait pour effet que les parents des personnes en situation de handicap qui avaient cette impression-là. Et ça, c'est très malsain. Et les personnes et les intervenants devraient toujours donner la bonne information aux personnes qui sont à la recherche d'informations et d'accès aux services. Ça, c'était un aspect là, que j'ai trouvé très frappant. Et puis ça, quand on regardait les évaluations que le ministère de la Santé et des Services sociaux faisait du plan d'accès le plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience. Dans son évaluation, le ministère le disait clairement. Il y avait des gestionnaires qui disaient qu'ils devaient mettre des intervenants dans un dossier dans une période de temps pour respecter les standards d'accès. Et puis, il y avait des gestionnaires qui le disaient textuellement. Ils disaient, même si on met quelqu'un dans le dossier pour respecter un délai, ça n'invente pas des ressources, ça n'invente pas des intervenants pour donner le service concrètement. Fait que donc, ça serait...
Tout à fait. C'est clair qu'il y a un manque... Même du côté des services, même du côté du gouvernement, il y a un manque de personnel pour répondre à des besoins. Rapidement, Olivier Martin, quelles sont les pistes de solutions que vous avez pu identifier?
Bien, de un, il devrait avoir une responsabilité d'informer qui devrait être attribuée à un organisme au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, un genre de guichet unique qui serait la source d'information autant pour les usagers que pour les intervenants. Mm-hmm. Souvent, avec le grand roulement de personnel, les intervenants vont changer et les personnes doivent souvent répéter leurs informations, ce qui demande beaucoup de temps et d'énergie pour les personnes en situation de handicap et qui fait perdre du temps. Également, les intervenants qui ne sont pas toujours au fait des situations de handicap et des services pour y répondre. Fait qu'ils doivent eux-mêmes aller chercher l'information avant de la retransmettre aux personnes. Et à ce moment-là, il peut y avoir des distorsions entre l'information qu'on va chercher et quand on la retransmet. On doit aussi, on devrait aussi décloisonner l'information. L'information devrait bien circuler entre la première ligne, la deuxième ligne, entre les centres de réadaptation, entre les hôpitaux, qu'il y ait une circulation fluide.
Mm-hmm.
Donc ça, notre avis a été fait. Les focus groups ont été menés avant la réforme, la réorganisation du réseau de la santé dans laquelle on est maintenant. Ça, les promoteurs de la réforme disent que la réorganisation du réseau de la santé avec la mise en place des CIS et des CIUS va améliorer ça. Donc ça reste à voir et à demeurer très vigilant. Et aussi dans cette période de transformation-là, l'organisation, le personnel, l'organisation des services va grandement être appelée à changer. Donc il faut rester vigilant et les conseils qu'on pourrait donner aux personnes et aux proches, c'est d'être proactif, d'aller à la recherche d'informations et d'être curieux, de s'informer auprès de personnes qui sont en mesure de donner de l'information à jour, de l'information de qualité et de l'information juste, que ce soit par exemple notre gestionnaire d'accès ou notre intervenant pivot,
mm-hmm.
et aussi de garder des copies des plans de service et des communications qu'on a du réseau. C'est donc vraiment d'être très proactif et de poser des questions aussi pour l'avenir, parce que...
Merci, mais on va se laisser là-dessus, sur ces beaux mots sur l'avenir. Merci beaucoup, Olivier Martin, coordonnateur du mouvement Phase. Merci d'avoir mené ces focus group et qu'on va en tirer plus d'informations. Merci beaucoup.
Merci. Pour lire l'avis, vous pouvez aller sur le mouvementphase.org.